polémique que la commune de Bruxelles n'a pas vu venir.
Dès l'automne prochain, le tunnel Léopold II portera le nom d'Annie Cordy.
En renommant le tunnel, la municipalité voulait faire oublier le passé colonial controversé de l'ancien roi belge. Mais Annie Cordy ne fait pas l'unanimité. Une de ses chansons emblématiques est accusée de racisme. Cet épisode belge entre dans le cadre d'un phénomène appelé la cancel culture, ou culture de l'effacement. Venue des États-Unis, elle vise à boycotter des œuvres, à évincer des personnalités suspectées de racisme, de sexisme, d'homophobie, en les discréditant publiquement. Et cela touche des grands classiques. Autant en emporte le vent, et plusieurs Disney sont accusés de véhiculer des clichés racistes. Dernier visé par la cancel culture aux États-Unis, Pépé le putois, qui n'apparaîtra pas dans la suite du film Space Jam. Le personnage normaliserait la culture du viol.
Pépé le putois court toujours après les chattes. Est-ce que son personnage est dépassé? Je ne suis pas sûr, mais je comprends que la société veuille passer à autre chose.
Dans l'édition, un grand classique a lui aussi tourné la page d'une époque. Les 10 petits nègres d'Agatha Christie, paru en 1940, s'appelle désormais en France « Ils étaient 10 ». La nouvelle traduction a même rectifié le texte, le terme « nègre » est remplacé par « soldat ».
Moi, je trouve ça ridicule.
Il ne faut pas couper les œuvres d'art ou les romans de leur contexte.
C'est une belle avancée,
ouais, je
parce que je trouve le titre un peu raciste quand même.
Alors, faut-il expurger les œuvres des clichés racistes, sexistes et homophobes? La cancel culture est-elle une avancée ou une nouvelle censure?
Trois invités.
L'expression cancel culture a été employée pour la première fois et surtout quand est-ce qu'elle a atterri dans nos débats ici en France? François Nodelman, vous-même, dans quel cadre est-ce que vous avez en effet entendu cette expression? Dans quel contexte? Pour désigner qui ou quoi? Et c'était quand?
C'est pour désigner effectivement un mouvement aux États-Unis qui amène à l'annulation. Bon, c'est tout simplement ce qu'on appelle la censure, hein, très très classiquement. Et effectivement, cette censure, comme elle semble résonner dans les milieux de la culture, des médias et de l'université, il y a eu un certain nombre de réactions. Et le grand coup de semonce a été la lettre publiée dans Harper's il y a à peine un an, c'était en juillet dernier.
Salman Rushdie.
Alors aussi des gauchistes comme Noam Chomsky jusqu'à des centristes comme Marc Lillard. C'est très très largement de toute communauté. Et il y a eu
s'inquiéter
de fait que voilà, il fallait de respecter la liberté d'expression, la liberté académique. Et alors évidemment, le terme de cancel culture a été récupéré, il faut le dire, par la droite américaine qui veut pouvoir continuer à insulter, à employer des termes racistes et se protège derrière la cancel culture, mais qui n'est que au fond le free speech qui est garanti par la Constitution.
La liberté d'expression.
Aux États-Unis. Voilà. Maintenant, effectivement, c'est pas parce qu'on nie qu'il y ait objectivement une idéologie de cancel culture qu'il faut se masquer les yeux. Il y a un vrai problème. Et un problème qui se passe dans différents domaines, comme les musées, les universités et les médias.
La vôtre, NYU, par exemple.
Comme toutes les autres. Mm-hmm. Je pourrais vous donner des exemples. Si vous en voulez un, juste le plus récent, à Princeton, qui est quand même une grande université, où un historien dit qu'effectivement, il veut annuler les classiques. Vous savez, classiques, c'est l'histoire ancienne. Hein. Donc, il considère qu'effectivement, comme Platon avait des esclaves, ou bien qu'il y a beaucoup de statuaires qui sont des statuaires grecques blanches, ignorant qu'elles étaient polychrones.
Il ne veut plus enseigner Platon ?
Il faut en fait annuler la discipline. Et quelqu'un, tout d'un coup à Stanford, dit « Ah mais oui, c'est vrai, voilà ». Donc il y a une espèce quand même d'émulation dans la censure qui effectivement peut interroger. Alors qu'on s'interroge, c'est très bien, et ça c'est tout l'intérêt de ces contestations. Hein. Mais évidemment, quand elles deviennent une idéologie et qu'elles s'emparent de tous les domaines, là ça devient grave.
On en reparle, mais d'abord un chiffre pour voir si en France cette notion, cette pratique de cancel culture signifie quelque chose pour les gens.
Eh bien non. Notre chiffre, cher aux amateurs de football, n'est pas rassurant sur la compréhension politique. 11% des Français, sondage IFOP pour nos amis de l'Express, qui connaissent et comprennent cette expression « cancel culture ». Question pour vous, Rachel Kahn, éclairez-nous. Qu'entendez-vous, vous, par « cancel culture » là-bas et ici?
Alors, cancel culture, pour moi, c'est effectivement la culture de l'annulation, où en fait, c'est cette forme de censure que l'on peut vivre. Après, le chiffre est assez parlant, parce que j'ai l'impression que ça concerne beaucoup d'initiés, notamment lorsqu'on met la race au centre de tous les débats et de tous les propos, on connaît la cancel culture, mais pour les autres personnes qui sont moins à l'affût de ce genre de choses, c'est
un débat de niche.
J'ai l'impression. Enfin, évidemment, nous on baigne dans ce milieu-là, etc. On le voit arriver ensuite dans les universités. Alors là, depuis ces derniers mois, avec les différents articles qu'il y a eu, les gens commencent à comprendre.
Mais comprendre quoi, pardonnez-moi, qu'il faut bannir les propos racistes ou bannir les
propos sexistes, homophobes.
En fait, il y a plusieurs choses dans la cancel culture. Il y a la première, c'est effectivement sur les œuvres, notamment les diptyques nègres, changer les noms pour faire en sorte que ce soit acceptable, entendable. Donc en fait, écrire l'histoire avec une gomme comme si ça ne s'était pas passé. Et ensuite, dans le présent, faire en sorte que la liberté d'expression soit réduite. Et en fait, le danger, c'est de gommer pour ensuite que ça soit remplacé par des idéologies.
André Célestine, c'est un gommage ou c'est la correction de stéréotypes une correction bienvenue, nécessaire?
Moi, je pense qu'il y a tout un ensemble de phénomènes et de pratiques très, très différents les uns des autres qu'on met sous un même label cancel culture. J'indique quand même malgré tout que le titre « Les Diptyques Nègres » en anglais a été changé un an après la publication, donc en 1940, après la publication en 1939. Il n'y a qu'en France que le titre a été changé très récemment. Donc je pense que voilà, c'est pas écrire l'histoire avec une gomme. Dans cette histoire-là particulière, il s'agit pour le coup d'un changement de titre qui quand même date quand même d'un petit moment.
À la demande de la famille d'Agatha Christie.
Voilà, tout à fait. Et en fait, je pense que justement, l'importance là, c'est les détails. L'importance, c'est les contextes. Je viens d'entendre quelques mots sur l'université. Pour le coup, les questions raciales telles qu'elles se déploient et qu'elles s'étudient à l'université, c'est quand même mon domaine depuis maintenant presque 20 ans. Et je reconnais absolument pas ce qui vient d'être dit là. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est à la fois des enjeux qui sont quand même globalement étudié de façon assez minoritaire, mais de plus en plus dynamique. Moi, j'ai animé pendant 7 ans un séminaire sur l'histoire sociale des populations noires en France avec tout un tas d'interventions de collègues français et de collègues étrangers. Donc, il y a un domaine qui est dynamique, qui est loin d'être majoritaire à l'université. Une attaque, des attaques, très clairement de la part d'un certain nombre de revues, clairement Figaro, Vox, Les Valeurs Actuelles, Le Point principalement, qui, à coup d'attaques contre pêle-mêle les décoloniaux, les postcoloniaux, l'identitarisme, le racialisme, mélange tout un tas de choses, tout un tas d'éléments, tout un tas d'approches et fait de concepts qui sont travaillés par des gens qui y passent du temps, qui dépensent de l'énergie, qui font des travaux, qui font des livres, qui sont discutés dans des séminaires, des idéologies qui seraient des idéologies mortifères, et c'est assez rageant.
Mais Audrey Célestine, ce qui est mis en question, ce qui est questionné, c'est à la fois une sorte de délire de la pureté et puis quelque chose qui ressort de la censure ou d'une forme de zèle dans l'autocensure.
Alors moi, je trouve que ce qui est assez fascinant quand même dans la séquence là qu'on est en train de vivre, qui n'est pas nouvelle, mais il y a effectivement dans les médias quelque chose qui est en train de se jouer, c'est de voir à quel point les objectifs et les résultats des travaux justement sur tous ces enjeux-là sont accusés d'exactement le contraire de ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est censé être assignant, c'est censé être essentialisant, alors même qu'il s'agit là d'instruments qui cherchent à déconstruire l'assignation raciale.
Juste une question quand même, oui. Parce que, pardon, je sais pas, vous n'êtes pas assigné à répondre, mais vous êtes d'accord que c'est ridicule de ne pas enseigner Platon? On a parlé à l'instant d'un univers...